Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Rebonsoir, toujours en direct de Metz à l'issue de la sixième étape du Tour de France qui conduisait donc le peloton aujourd'hui d'Épernay à Metz. C'était la dernière étape pour les sprinteurs et on l'espère pour les chutes car une nouvelle fois aujourd'hui elles ont été légion et ont mis à terre plusieurs des grands leaders de ce Tour de France. On va évidemment en parler avec toute la Dream Team rassemblée autour de moi dans ce petit camion. On rappelle également la victoire de Peter Sagan, troisième victoire d'étape pour le jeune Slovaque qui s'affirme de plus en plus comme l'un des grands du peloton. Il s'impose devant André Greipel au classement général. Pas de changement en ce qui concerne les trois premiers, toujours Cancellara en jaune, peut-être pour le dernier soir, on en parlera tout à l'heure. Bradley Wiggins est deuxième à 7 secondes et Sylvain Chavanel, là aussi, à 7 secondes. Les autres sont beaucoup plus loin et notamment pas mal de leaders français comme Pierre Roland qui est 40e ce soir à 2 minutes 50 et puis on en parlera, tous les leaders étrangers également, notamment Valverde, Gesing et autres Echdal qui sont très très loin. Pour évoquer cette sixième étape marquée donc par les chutes, nous sommes avec toute la Dream Team, à commencer par Luc Leblanc qui se trouve face à moi. Bonjour Luc.
Bonsoir, bonsoir.
Enfin la montagne, mon cher
Luc.
Ah,
quand même.
Toi, tu les aimes pas ces premières semaines.
Ça y est, j'arrive dans ma partie là.
T'arrives dans ta partie. Cyril Guimard va quitter les sprints, mais enfin il était pas mal en montagne aussi le druide. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
On est content quand même que la plaine se termine pour quelques jours.
Je crois que oui, mais beaucoup sont contents qu'elle se termine aussi.
Ouais.
Sauf peut-être ceux qui ont chuté aujourd'hui.
Eh oui,
la montagne, ça va pas être très bon pour eux demain.
Ça va pas les arranger. Thierry Bourguignon est avec nous en direct de son sud, non pas natal, mais son sud d'adoption, à côté d'Avignon. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Thierry.
Toi aussi, tu es content de voir enfin la montagne arriver?
Ah oui, mais où va-t-il s'arrêter?
T'es content aujourd'hui,
Sagan.
Mon Thierry, hein. T'es content, hein, aujourd'hui.
Mais où va-t-il s'arrêter?
Pourquoi tu avais donné Sagan?
Non.
Mais il est impressionnant.
Il a impressionnante
facilité. Ouais. Sur le plat, sur les bosses.
Ouais. Il est vraiment très, très fort. Et puis il évite les chutes. Il remonte sur son vélo à toute vitesse. Bref, il est impressionnant. Demain, peut-être, pourquoi pas, la plongée Belfi.
Oh,
on en parlera tout à l'heure. Alors, on va surtout, dans ce début d'émission, revenir sur les chutes. On va peut-être faire le point sur ceux qui ont été victimes de cette chute terrible, hein, Cyril, intervenue à 26 km de l'arrivée. Les coureurs interrogés à l'issue de l'étape disaient qu'ils avaient vraiment eu un sentiment de grande peur. Il y avait de la fumée. Pierre Roland, par exemple, a pris des vélos d'autres garçons sur le dos. Ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. On va peut-être faire le récapitulatif de tous ceux qui sont retardés et qui sont blessés. Cyril, est-ce que tu as une petite liste? Moi, j'en ai quelques-uns.
Il y a des favoris,
oui,
déjà.
Je les ai tous. On va nommer les principaux parmi les favoris, les hommes que l'on attend dans la montagne. Alors vous avez Scarponi, le leader de la Lampre, vous avez Brajkovic de Astana, Frank Schleck, Cyril Gauthier, Pierre Roland, Thibaut Pinot, Bokke Mollema, Boasenhagen, Jean-Christophe Perrault le français, Alejandro Valverde qui était comme là pour une place sur le podium, Robert Gesing qui est allé quand même trois fois par terre lui aujourd'hui.
Lui,
il a collectionné Thomas Vauclair, ben ça on l'a dit.
Echdal
qui est semble-t-il
13 minutes.
13 minutes 24 exactement. Van Sumeren aussi qu'on avait annoncé un moment comme abandon, mais qui est aussi terriblement touché. Non, une étape qui a fait très très mal aujourd'hui. Et à mon avis, il va y avoir des conséquences collatérales, dirons-nous, dans les jours à venir, en espérant que il n'y a pas trop d'abandons avant l'étape contre.
Évidemment, il y a eu quand même 4 abandons à l'issue de cette chute. Hein, Astarloza, Vigano, Danielson ou encore Wouter Poels, le Néerlandais. Ça fait beaucoup de dégâts. Et puis Pierre Roland, on se demande s'il pourra prendre le départ demain. Les nouvelles qu'on a eues il y a quelques minutes sont un peu plus rassurantes puisque dans le bus il a l'air de se plaindre un peu moins que tout à l'heure à l'issue de l'étape où il avait très très mal aux côtes. Pas de radio finalement ce soir. On verra demain dans quel état il est. Mais c'est vrai que il a été touché à la fois physiquement et également au moral. Alors, en cause sur cette chute, on l'a entendu tout à l'heure, Thomas Vauclair et Pierre Roland, ou encore Jean-René Bernadeau. On va tout de suite écouter d'ailleurs Jean-René Bernadeau. Pour lui, c'est la faute aux Héroïettes. On écoute le manager de l'équipe Europcar.
Tout le monde va être près de son leader et tout le monde va être au même endroit. Et il n'y a pas de place pour tout le monde et ça tombe dans une descente à 65 à l'heure. Un tas, voilà, des bas-côtés glissants, une catastrophe. Mais il faut vraiment que ça arrête, les oreillettes s'arrêtent de dire remonter, remonter. On ne peut pas tous remonter. Il va falloir laisser faire les coureurs eux-mêmes avec leur, leur instinct de survie, mais on peut pas sans arrêt de dire remonter puisque tout le monde va être en place devant, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ça devient très tendu, vraiment. C'est la limite. Et aujourd'hui, certains s'en sortent bien, d'autres moins, mais nous, on perd gros aujourd'hui. Hein.
Ouais, on perd gros, il le dit Jean-René Bernadeau, c'est vrai que les tours ne se suivent, ne se ressemblent pas pour la formation Europcar, on le disait, puisque Pierre Roland a été victime de la chute et que Thomas Vauclair lui est arrivé avec près de 13 minutes de retard. Avant d'attaquer notre débat, on va repartir pour Wimbledon, où Joe Wilfried Tsonga est toujours opposé à Andy Murray. Eric, c'est la quatrième manche, c'est très chaud là, c'est très chaud malheureusement pour Joe.
Ouais, c'est très très chaud, et Joe qui est confronté à deux balles de break, Christophe, 4 jeux à 3, Murray, 15-40 sur le service du Français, qui prend mais vraiment tous les risques, il se rue au filet. Alors évidemment, parfois il prend des passings dans les gencives, il frappe très fort ses premières balles, mais évidemment c'est une sorte de tennis pourcentage qui a ses limites. Et là Murray a une bonne deuxième balle à jouer, retour dans les pieds, oh le passing de Murray, et volée amortie de Joe, elle est sauvée, et Murray est à terre. C'est courageux, c'est brave, c'est admirable. Première alerte, sauvé, effacé par Joe Tsonga, mais il reste une balle de 5-3 malheureusement à écarter. Et celle-là, elle vaut très très cher, puisque Murray, on le rappelle, mène deux manches à une, 6-3, 6-4, 6-3 de Tsonga dans le troisième. Et Murray, si on compte bien, est à 5 points du bonheur. Alors attention, cette balle, elle vaut très très cher, elle vaut peut-être une finale dimanche face à Federer. Grosse première de Joe, attention le retour dedans, oh le passing de Murray, non il tente le lob, Joe, il faut courir, il faut faire un truc, là, il faut sortir un truc, oh il le sort, il écarte cette menace incroyable, et Murray a plongé en 20, c'est énorme ce qui se passe. On vient de vivre une minute de folie, donc Tsonga est toujours en vie, 4-3 au quatrième pour Murray et 40-1.
Ah, Patrice Dominguez qui est également avec nous, c'est un warrior, il montre que c'est un guerrier là, Joe, sur ses couleurs.
On disait tout à l'heure, Christophe, il fallait qu'il change quelque chose, et bien à partir du troisième set, ça n'est plus le même joueur qui s'est mis à jouer face à Andy Murray. Il prend tous les risques, comme l'a dit Eric, il frappe beaucoup plus fort, il monte beaucoup à la volée, et là Murray vient de tomber deux fois, deux reprises. Attention, c'est peut-être un signe, il donne tout ce qu'il a, Andy Murray, parce qu'il a déjà eu le break dans ce quatrième set, mais il n'a pas pu le conserver, et là c'est une balle d'égalisation pour Joe à 4 jeux partout, qui est complètement transfiguré, qui est voilà, tel libéré qu'il aime être dans les matchs, c'est-à-dire se battre, se bagarrer, aller
c'est
chercher
fait, Patrice,
l'adversaire
4
et l'agresser.
4 partout, Patrice, énorme. Avec des premières balles à 140 miles, mais 140 miles c'est 225 km/h, il est en train de battre ses records au fur et à mesure des premières balles, c'est incroyable.
Incroyable, Joe, allez, on va pousser derrière lui, on revient vers vous dans quelques instants. Andy Murray qui est au sol lui aussi. Bon, c'est sûr que sur le gazon, ça fait un peu moins mal que sur le bitume, mais malgré tout, il a chuté et Joe le fait chuter. Alors, les oreillettes, évidemment, notre débat. Pourquoi ne supprime-t-on pas ces saletés d'oreillettes?
Que c'est la cause?
Voilà, est-ce que c'est la cause? Alors, vas-y, commence Thierry. On va essayer d'être bref parce qu'évidemment, il y a le tennis, donc des réponses assez brèves. Est-ce que tu penses que les oreillettes sont la cause de tous les malheurs du peloton et de toutes ces chutes?
Bon, on les accuse de tous les malheurs, mais il faut savoir qu'il y a 12 ans, elles étaient là, il n'y avait pas plus de chutes, il y avait moins de chutes avant. Il faut voir aujourd'hui qu'ils sont tombés dans un faux plat descendant, ça roulait très vite et c'est pour ça que ça s'est entassé énormément. Alors c'est vrai que tout le monde demande à monter, mais ça se passait par le passé avec les oreillettes. Sans les oreillettes, c'est la même chose. Je ne suis pas sûr. Alors c'est vrai que ça, à quelque part, quand on parle au téléphone en voiture, même avec un kit main libre, on n'a pas l'esprit sur la route. Je le conçois. Si on fait un...
Oui, mais alors c'est vrai que la loi et les gendarmes interdisent de téléphoner au volant et vous mettre une amende, mais en cyclisme, c'est pas le cas. Hein.
Non, ils nous mettent l'amende si on a la main sur le téléphone. Un kit main libre, jusqu'à la preuve du contraire, c'est encore autorisé, même si il y a le même débat que les oreillettes.
Ouais. Bon, mais il y a le son, il y a le bruit aussi. Il y a le bruit aussi. Alors Cyril, toi tu n'es pas du même avis que Thierry. Toi tu penses que les oreillettes sont la cause de tous les maux du peloton. Hein.
Non, n'exagérons pas. Avant les oreillettes, il y avait aussi des chutes, mais c'était pas tout à fait les mêmes chutes et surtout pas des chutes aussi importantes avec autant de coureurs impliqués. Parce qu'il y a ce phénomène important, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le bruit. lorsque vous avez la moitié des coureurs qui sont en émission, un, ils ne peuvent pas être en attention totale puisqu'ils sont en train d'essayer de comprendre, et on le sait pour ceux qui ont mis les oreillettes, le son n'est quand même pas d'une très grande pureté, donc quelquefois ça grésille, c'est pas toujours très clair, et donc ils font un effort de concentration pour comprendre ce que le boss qui est aux commandes, qui est au PC de la voiture est en train de leur dire, et la plupart du temps, c'est pas pour leur dire attention, il va y avoir une chute,
c'est pour leur dire remontez à toute vitesse devant les protéger votre leader.
C'est plutôt pour les engueuler, pour leur dire mais qu'est-ce que tu fous en milieu de peloton, remonte vite devant. Donc quand vous avez la moitié des coureurs qui sont en émission, comment voulez-vous qu'à certains moments il n'y ait pas des chutes ?
Ils soient concentrés et attentifs.
Et comme ça part le moment de la chute, vous n'entendez pas les premiers bruits de la chute, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 7, 8, 10 coureurs, eh bien vous en avez 30 ou 40 comme aujourd'hui.
Ouais, Thierry, deux minutes, on repart à Wimbledon parce qu'il y a deux balles de break cette fois-ci pour Joe Wilfried Tsonga, Eric.
Oui, pardon, balle de break pour Joe. Je discutais avec mon frère. On est abasourdi par la puissance que dégage Joe. Donc balle de break, elle est sauvée la première. Sauvée par une première balle d'Andy Murray. Mais il y en a une deuxième. Il y a une deuxième chance qui pourrait tout changer dans cette deuxième demi-finale. Parce qu'on voit bien dans le regard d'Andy Murray, il y a de la peur. Il y a de la peur. Il se dit mais qu'est-ce qu'il va m'envoyer ? C'est assez impressionnant comment le match a changé d'âme. Donc deuxième balle de break pour Joe Wilfried Tsonga dans ce neuvième jeu du quatrième set. Murray qui prie pour que sa première passe et malheureusement pour lui, elle est annoncée faute. C'est donc une deuxième balle de service qui va se jouer. Il a demandé le challenge, hein. C'est important parce que à ce moment-là, on essaie de récupérer une balle de service et il a eu raison, mais il est en rage d'un autre côté parce que il avait sorti une bonne première balle. Donc là, c'est un petit incident d'arbitrage, appelons ça ainsi, ce qui bénéficie à Joe Wilfried Tsonga. Donc deux nouvelles balles à jouer pour Andy Murray sur cette balle de break ô combien importante, puisque l'Écossais tout à l'heure était à 5 points du match, mais là, ça pourrait complètement s'inverser. La première balle, oui, la filée, voilà. Bah, c'est souvent comme ça, hein. Erreur d'arbitrage, et derrière, vous êtes sous pression. Et là, Joe, eh ben, il va s'engouffrer dans la brèche. Il va tenter le gros coup en coup droit. C'est parti. Et ça sort, malheureusement. Ah, là. Ça peut pas marcher à tous les coups. C'est dommage. Mais il a pris ses chances. C'est ce qu'il fallait. 4 partout. 40 à Christophe, et dans ce jeu.
40 à. Très bien. On revient vers toi dans quelques instants en espérant une nouvelle balle de break pour Joe Wilfried Tsonga. On est à bloc derrière Joe, n'est-ce pas, Lucho?
Hein, ah, oui, hein, en tant que Français, on est tous à bloc.
On est tous à bloc derrière.
Attends, demi-finale, pourquoi pas la finale?
Eh oui, pourquoi pas. Alors, les oreillettes, monsieur Leblanc.
Moi, quand j'étais coureur, je les ai mises une fois 10 minutes et puis j'étais foutu en l'air. Donc, voilà, c'était tout au début des oreillettes. C'était en 97, je crois, 98. Mais bon, c'était pas obligatoire, quoi, comme elles le sont aujourd'hui, quoi. Je veux dire, tout le monde l'aimait. Non, mais c'est vrai que les oreillettes, ça perturbe.
C'est difficile aussi de lutter contre le progrès et contre la technologie.
Mais attends,
regardez,
à un moment donné, dans le
tennis, maintenant, on a des actions au ralenti, au
il y a quand même des limites, je veux dire. Ouais. C'est sûr que
faudrait que les coureurs mettent encore les boyaux autour du cou et qu'ils aillent réparer leur vélo sur la forge.
Tu pousses pas un petit peu là.
C'est bizarre, parce que quand vous regardez les étapes, les chutes, elles arrivent quand? Elles arrivent toujours dans la dernière partie de la course, jamais
c'est
en début.
C'est là où c'est plus nerveux.
Et c'est là où c'est plus nerveux. C'est là où les directeurs sportifs s'enflamment encore plus dans les oreillettes.
Ils sont plus nerveux aussi.
Remonter. Il faut être dans les 25 premiers, sinon il va y avoir une chute. Et puis vous allez.
C'est dur de mettre 200 coureurs dans les 25
même
premiers.
Sans oreillettes, ça se passe.
À
25 km de l'arrivée, les mecs sont tous nerveux. Ils le savent qu'il y a des risques.
Mais sur une ligne droite, est-ce que tu as déjà vu sur le tour, sur des lignes droites, lignes droites de 6-7 mètres.
Et qu'il y en ait un qui se mette en travers, c'est tout.
Non.
Et à 70 km/h, excuse-moi.
Non, mais attends, quand j'ai eu l'oreillette, quand mon directeur sportif me parlait, ça me perturbait, quoi. J'étais pas concentré, mais comme
c'est
beaucoup d'autres coureurs.
Pas non plus quand tu conduis la voiture du tour.
Mais non, mais attends, et en plus, tu n'entends pas les bruits extérieurs. Et tu n'es plus concentré sur la course. Mais
si, tu n'es
plus
concentré.
Non, Thierry, quand on te parle, au moment où on te parle, tu n'entends pas les bruits.
Exactement.
Tu sais très bien qu'on a eu les mêmes problèmes avec les hélicoptères en Italie.
Ah oui, c'est autre chose.
Les hélicos étaient trop bas et les coureurs n'entendaient pas les bruits.
Ils ne il couvrait complètement le bruit. Ben alors voilà. Qu'une oreillette ne couvre pas.
Mais non, Cyril,
si à 70 km/h.
D'abord, j'étais pas à 70. À 70, c'est
on arrête le débat des oreillettes. On arrête le débat des oreillettes, Christophe.
Non, juste pour vous dire que finalement, Murray a remporté son jeu. Il mène 5-4 face à son gars, mais service à suivre pour Joe. Alors, bon, on a bien compris que les oreillettes font débat. Tout le monde n'est pas d'accord. Et tout le monde n'est pas d'accord également dans le peloton, puisqu'il y a les pour et les contre. On a entendu tout à l'heure Jean-René Berdonneau dire qu'il était contre. En revanche, à tous les leaders des grandes équipes, que ce soit Bjarne Riis, Johan Brunel ou encore Patrick Lefebvre, qui eux sont pour les oreillettes et qui pour l'instant...
Les grosses écuries, c'est tout, hein?
Des grosses écuries. Que les grosses écuries.
Que les grosses écuries.
Voilà. Non, c'est un peu.
Si tout le monde est d'accord ou presque.
Parce que voilà, les supprime ton pas. Elle devait être supprimée. Non, il faut quand même dire quand même que l'ensemble des fédérations, y compris l'Union Cycliste Internationale, ont voulu les supprimer. Ils les ont supprimées pour toutes les catégories, sauf pour le Pro Tour. Parce qu'il y a eu un lobby des plus grosses équipes du Pro Tour pour mettre la pression sur le président de l'UCI, monsieur McQuaid.
Et puis pour les fabricants aussi, les fabricants des oreillettes aussi, Cyril.
Vous savez le chantage qui a eu lieu ? Est-ce que vous savez le chantage qui a eu lieu ? L'an dernier, c'est tout simple, il y avait une course à faire en Chine qui est rentrée cette année dans le Pro Tour. Eh bien, il y a les plus grosses écuries, je suis désolé, les plus grosses écuries ont dit « Ok, on va là-bas, à condition qu'en 2012... » on est les oreillettes. Et Pat McQuaid a été obligé de baisser son froc.
Tour de Chine, Cyril.
Non, mais Cyril. L'UCI a été obligé de céder.
Et mieux que ça, ils ont encore cédé
pour 2013.
Bon, on est un vrai débat, alors, dans ces cas-là. Que tout le monde se mette autour d'une table et puis que.
Mais les grosses écuries, elles veulent garder la maîtrise de la course.
Alors, Cyril, c'est du coaching, ça.
Mais c'est pas
oreillettes.
Du coaching.
Mais si, c'est les oreillettes,
ouais,
et les coachings.
C'est pas clair.
C'est pas clair.
Cyril, parce que tu me disais contre, tout à l'heure que seules les assurances, les sociétés d'assurance, peut-être pourraient faire pression en expliquant qu'aujourd'hui, les coureurs cyclistes prennent trop de risques avec ces oreillettes, qu'il y a trop de chutes, trop de dégâts, trop de bobos, trop de remboursements à faire.
Ben, il y a trop de sinistralité. Il y a beaucoup trop de blessés. Donc il y a un moment, qu'est-ce qu'il paye ? Eh ben, c'est le petit cadet, le petit minime, le petit junior qui va payer parce que le prix de la licence, il va augmenter. Très. Et c'est comme ça d'ailleurs que les licences ont augmenté de 20 ou 25% en quelques années. Et ça va continuer à augmenter. Donc il y a un moment, c'est les mômes qui vont payer parce qu'on est obligé de mettre des oreillettes parce que le Pro Tour veut les oreillettes.
Et tout Cyril, augmenté, l'an dernier, on a fait un essai. On a enlevé les oreillettes.
Une fois.
Oui. Il y a eu beaucoup moins de chutes ou pas ?
Oui.
Il y a eu
grève. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Dans les courses où il n'y a pas les oreillettes, il y a moins de chutes et surtout moins de courants impliqués dans la même chute.
Le débat n'est pas clos, évidemment. On en reparlera. Car il y aura d'autres chutes. Thierry, 5 minutes. On en reparlera une autre fois. On n'a pas beaucoup de temps. Tu sais qu'il y a quand même une demi-finale à Wimbledon. On va retrouver Eric Salio, toujours dans cette quatrième manche. Eric, c'est toujours très serré entre les deux hommes, entre Tsonga et Murray.
Oui, 5-4 Murray dans ce quatrième set. Mais Joe, sur son service nous rassure puisqu'il y a 40-15. Il aurait même dû prendre le jeu puisque Carlos Ramos n'a pas été inspiré en stoppant un échange, en annonçant faute une balle de joueur qu'elle était bonne. Mais voilà, c'est pas grave. Tsonga, 5 jeux partout dans ce quatrième set. Murray n'a pas vu la moindre balle de match à l'horizon et c'est tant mieux.
On se dirige vers un tie-break, Patrice, hein?
Absolument. En tout cas, Joe n'est toujours pas marqué, hein. Il est à fond dedans. Maintenant, il est totalement dans son match. Je dirais que il a pris peut-être un petit ascendant parce que, comme le disait Eric tout à l'heure, on le voit bien, certains signes que Andy Murray est peut-être un petit peu nerveux, quoi, à l'approche de cette finale après laquelle il court depuis 4 saisons. Donc, il est forcément un petit peu plus tendu que Joe. On le voit parler avec ses mains, avec sa mère, avec son clan qui se trouve dans le coin derrière lui, et il est un peu moins serein qu'il ne l'avait été au début de ce quatrième set, et ça va se jouer sur la première d'Andy Murray. Là, il a servi une deuxième balle et Joe avait pu prendre l'initiative, malheureusement il n'a pas pu faire le point, mais ça va se jouer sur la capacité à très très bien servir en première balle sur cette fin de quatrième set.
Évidemment, et on continue de suivre ce match avec Patrice Dominguez et Eric Salio. On y retourne dans un instant. En attendant, on va jouer. Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Parmi ces deux coureurs, lequel a gagné le plus d'étapes sur le Tour de France cette année? Si vous pensez que la bonne réponse est Peter Sagan, vous envoyez A par SMS au 7-32-16. Et si vous pensez que la bonne réponse est André Greipel, vous envoyez B par SMS au 7-32-16. Bonne chance! Allez, l'intégral tour revient dans un instant. On va évoquer l'étape de demain. On va parier, évidemment, faire le bilan de nos paris. Et puis évoquer cette étape, les belles filles, puisque c'est le nom du lieu d'arrivée de la 7e étape. Les belles filles vont-elles faire perdre la tête à Fabienne
Cancellara? Il va falloir grimper là-haut. Hein.
Ah ouais, on va voir s'ils grimpent les belles filles demain, Fabienne Cancellara. Allez, à tout de suite dans l'intégral tour.
Intégral tour. Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France en direct de Metz, on y revient dans un instant, mais on suit avec beaucoup d'intérêt la demi-finale qui oppose Murray Hatsonga à Wimbledon. Attention, Monsieur Salio, Joe est en danger là.
Oui, grand danger pour Joe, puisque Andy Murray est à 2 points de la victoire, à 2 points d'une qualification historique pour cette finale de Wimbledon. 6-5 pour l'Écossais et Joe qui se retrouve à 15-30. C'est mieux qu'il y a 20 secondes parce qu'il y avait 0-30, hein, Christophe, mais le Français a serré le jeu. Il a su remporter ce point. Service volé de Joe. Attention au passing de Murray. Oh là là, volé dans le filet, balle de match. Oh, la volée dans le filet de Joe. Oh, qu'elle est pas belle, celle-là. Elle était pas belle. Pourtant, il avait bien lu le passing d'Andy Murray. Il l'attendait côté coup droit. Mais là, le poignet a faibli, malheureusement. Ça fait 15-40. 2 balles de match pour Andy Murray. Et vous l'entendez peut-être ou peut-être pas. Mais évidemment, le central exulte. Peut-être qu'au bout, il y aura une immense libération. Ça, depuis 1938 qu'on n'a plus vu un Britannique en finale de Wimbledon. Joe, 2 balles de match à sauver. La première. Oh là, le passing! Non, il est annoncé faute. Le public est debout. Ben, je suis dans l'axe et on va être fixé tout de suite parce que dans l'esprit de Murray, c'est gagné. Mais la balle a été annoncée faute. Donc ça va se jouer au caille, à la vidéo. Mais Murray est convaincu d'avoir gagné. Les deux joueurs sont tout près du filet, l'un de l'autre. Ils s'apprêtent à se serrer la main. Joe est hilar. Je sais pas si au fond de lui ce qu'il pense, Joe. Peut-être qu'il pense que la balle, elle touche, c'est fini. Qualif de Andy Murray pour la finale de Wimbledon. Victoire donc en 4 manches de l'Écossais avec finalement une superbe balle de match. Un retour de coup droit gagnant. Victoire donc de Murray en 4 manches, 6-3, 6-4. 3-6, 7-5, mais Joe a été admirable de courage.
Ah, c'est trop bête, Patrice, c'est trop bête, alors qu'un tie-break se présentait à l'horizon pour Joe d'avoir perdu ce service. Mais là, Andy Murray a su serrer le jeu à ce moment-là de la partie, hein, un grand champion.
Oui, meilleur dans ce quatrième set que Joe. Il l'avait mené, il avait fait un break très tôt dans le set que Joe avait réussi à lui reprendre. Eh bien, là, il a été plus précis. C'est lui qui a poussé Joe sur tous ses jeux de service à faire des coups impossibles. Joe s'est battu d'une façon exceptionnel, extraordinaire, mais il n'aura qu'un regret, c'est d'avoir raté finalement ces deux premiers sets, parce que dans les deux premiers sets, il était loin de l'Écossais, il était loin d'Andy Murray qui a largement dominé, et finalement il n'a pas pu remonter cet handicap initial. Murray qui se qualifie pour la finale, qui en pleure de joie, Christophe, parce que c'est un moment historique pour les Anglais. On l'a rappelé au début, Fred Perry avait fait le triple dans les années 30, 34, 35, 36. Benny Austin était en finale en 38 et depuis, eh bien, les Anglais cherchaient un successeur. Donc ça fait plus de 60 ans. Et ben voilà un Anglais qui va défier le King, le maître des lieux, Roger Federer, dimanche. Ça va être une finale assez exceptionnelle. Mais Joe n'a rien à se reprocher, si ce n'est un départ un peu trop diesel.
Ouais, dommage pour Joe. En tous les cas, l'image était sympa. Hein, Joe et Andy, avant que la décision sur le service n'intervienne, Joe qui rigolait avec Andy Murray. Et là, ensuite, c'est les images de Andy Murray qui pleure. Ça peut être un grand week-end pour le sport britannique, alors qu'on est à 3 semaines du début des Jeux, Patrice. Non seulement Andy Murray en finale, peut-être un Anglais avec le maillot jaune demain ou après-demain, et il y a également le Grand Prix de Grande-Bretagne. Bref, tout va bien pour les Anglais à 3 semaines des Jeux Olympiques. Hein. Il va falloir les surveiller. Ils sont dans un état de grâce en ce moment. Hein.
Oui, et c'était assez exceptionnel. Alors, ce qui est amusant, parce qu'il y a toujours des clins d'œil de l'histoire, c'est qu'il a pris comme coach Yvan Lendl. pour gagner Roland-Garros. Parce que Roland-Garros, c'était précisément le tournoi qui avait été le déclencheur de la carrière d'Ivan Lendl. Eh ben, il est passé complètement à côté de son Roland-Garros et il va peut-être gagner Wimbledon. Eh
oui,
Un tournoi que n'a jamais gagné Ivan Lendl et qui est allé plusieurs fois en finale. Murray qui ressuscite après un printemps très très mauvais. Sur la tribune extérieure devant le grand écran, eh bien, c'est une foule en liesse qui va accompagner ou raccompagner Andy Murray au vestiaire. Non, c'est un grand moment pour lui dans sa carrière, lui qui a déjà joué 3 finales de Grand Chelem, mais qui n'est jamais parvenu à s'imposer.
Voilà, et on rappelle qu'Andy Murray n'est pas anglais et qu'il est écossais. Hein. Ça nous remonte le moral, ça quand même. Merci Patrice, en tous les cas. Merci.
Je vois là les résurgences des joueurs de rugby, des amateurs de rugby et des troisièmes mi-temps houleuses.
Exactement. Merci Patrice, bonne soirée. On te retrouve évidemment dimanche pour la finale, parce que ça sera quand même une drôle de finale entre Federer, Maître Roger, opposé à Andy Murray. On revient donc ici à Metz, où peut-être un Anglais sera en jaune demain, puisque ce sera la 7e étape avec l'arrivée à la planche des belles filles, une belle ascension, une 7e étape de 199 km et une ascension de quasiment 6 km à 8,5%.
Ouais, ça va être des passages à 13, 14%. D'ailleurs, peut-être les 300-400 derniers mètres sont à peu près à 14%, donc
ça va être très très raide, ouais. Et on va évidemment parier sur cette étape en accueillant Benji.
Les paris RMC Tour de France.
Benji, rebonsoir.
Salut Benji. Bonsoir messieurs.
On va vite faire les récapitulatifs et donner le classement et ensuite donner les favoris, nos favoris pour l'étape de demain.
Alors rapidement, maillot jaune Cyril Guimard et Bourgui, grâce à la deuxième place de Greipel, a récupéré le maillot vert, et c'est la première fois, messieurs, qu'on ne donne pas le vainqueur d'étape, donc il va falloir se rattraper.
Et moi, je grappille rien. De toute façon, je grappille rien avec Petaki 7e.
T'es à la ramasse complet.
T'as chuté, Lucho ?
Non, Petaki fait 7.
Mais c'est mieux que Cavendish pour Cyril et moi. Bref, alors demain, on va changer.
Nous avons été victimes de chute.
Exactement, nous aussi. Nous sommes retardés à l'arrière du peloton.
Enfin, c'est pas grave. Allez.
Alors, demain, c'est plus les mêmes noms qui vont sortir, j'imagine, dans les cotes.
Non, il y a deux.
Dans les côtes et les côtes.
Il y a deux co-favoris, Cadel Evans et Samuel Sanchez. 7,50 la cote des deux. Derrière, Valverde à 8,50. Schleck à 8,50. Les cotes un petit peu bizarres. On retrouve par exemple Bradley Wiggins à hauteur de Sylvain Chavanel avec une cote de 60. 10 euros, 600 euros pour la victoire de Bradley Wiggins. Moi, je vais jouer Jorgen Vandenbroek. La cote est à 15.
D'accord. Alors, moi, je vais jouer. Je vais mouiller un peu parce qu'il était devant il n'y a pas longtemps. Il a dû un petit peu se jauger de savoir comment il était et tout. Je vais jouer mon Coutier.
J'ai hésité. Mon Coutier, 40 la cote.
Voilà, je vais jouer mon Coutier parce que certainement qu'il va y avoir un coup qui va partir de loin. Et mon Coutier, c'est un parcours qui est plus favorable pour lui. Donc un final pour lui. Et je le vois bien devant, dans un petit groupe, pas surveillé du tout, loin au général. Allez, mon Coutier.
Parfait, mon Coutier donc pour Lucho. Thierry, à toi.
Je vais à l'encontre de tout. Peter Sagan. Un mec exceptionnel, je suis pas persuadé qu'il nous fasse pas une belle arrivée. Ouais. En plus, un jeune homme comme ça avec les belles filles au bout, je vais te dire, il va se défoncer. Hein.
Oh là, 50 la cote de Sagan.
50.
Ouais. Il prend des risques aujourd'hui, effectivement. C'est bien joué, c'est bien vu, Thierry. C'est
difficile.
Parce que moi, je prends pas de risque, moi. C'est bien joué non plus.
Si, Lucho, c'est bien vu.
C'est suicidaire. C'est complètement suicidaire, même.
Alors, Cyril,
Luc a raison. Il y a des coureurs qui sont très loin en classement général et que l'on va sans doute laisser partir sur ce type d'étape. Ils peuvent arriver avec 2-3 minutes au pied de la dernière ascension et ne pas être rejoints. Mon Coutier aurait sans doute pu faire partie de cette échappée, sauf qu'il a été lâché avant la chute, ce qui lui a permis d'ailleurs d'éviter la chute. Tant qu'à Peter Sagan, demain il va essayer d'aller faire le sprint bonification à Gérard Mer, et puis ensuite il va se garer au pied du dernier col. Donc Valverde, il a chuté aujourd'hui, il n'est pas trop bien. Il y en avait un qui était bien, mais il a pris un coup dans les côtes. C'est Frank Schleck. Donc il reste tout simplement Cadel Evans.
Quels sont les valides
Cadel Evans pour Cyril Guimard. Donc Cadel Evans qui.
Pourquoi mon Coutier, tu le sens pas bien?
Non, mais t'as le droit hein, d'aller chercher mon coup de pied.
Donc Cadel Evans pour le guide. Et moi, je vais donner Samuel Sanchez, l'Espagnol, qui est passé entre les gouttes et qui, demain, va s'en donner à cœur joie dans cette ascension violente et sèche.
Voilà. Chacun son tour.
Ouais, chacun son tour. On verra en tous les cas demain.
On fera les totaux demain.
Et on en reparle demain à 15h40, puisqu'on pariera à nouveau. Voilà, c'est terminé pour ce soir.
Et plus longuement dans les paris RMC demain matin, Christophe.
Bon, à 10h30, on n'oublie pas.
C'est vrai, il faut que je reparie demain matin.
Il faut que tu montes au sommet.
Et moi, je vais être dans le dur.
Et toi, tu vas.
Ben ouais, parce que si je suis au Paris RMC, au village départ, je ne pourrai pas être à l'arrivée.
Eh ben, écoute, tant pis, tu seras au départ et puis pas à l'arrivée. On t'attendra le soir.
De toute façon, t'es pas un grimpeur, donc tu peux pas être à l'arrivée.
Allez, c'est terminé pour ce soir, messieurs. En tous les cas, pour les paris. Voilà, le cyclisme reprend demain, évidemment, à partir de 15h, l'intégral tour pour cette première étape de montagne. On espère qu'on va se régaler, qu'on va éviter les chutes et qu'on va voir peut-être pourquoi pas des Français à l'attaque. En attendant, il y en aura peut-être ce soir des Français à l'attaque au meeting Areva au Stade de France, Jeff, on espère en tous les cas.
C'est absolument ce qu'on espère, mon cher Christophe, parce que 21 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres, c'est l'une des dernières occasions de briller et même pour certains et certaines de réaliser les minima avant les Jeux Olympiques. C'est donc une soirée importantissime ici au Stade de France qu'on s'apprête à vivre. Before London, spécial athlétisme meeting Areva. Il a fait un temps pourri cet après-midi sur Paris. Ça se relève, on va dire, au meilleur moment. Donc, on espère vivre une grande soirée avec les Lemaître, Lavillény, Soumaré, Gay, Gatlin, Rudisha, Pearson, Bekele, tout le monde ou presque est là.
Que du régal, que de régal ce soir et que de régal demain et tout au long du week-end avec un week-end 100% sport sur l'antenne d'RMC. Bonne soirée, athlé. Je vous retrouve demain à partir de 15h. Ciao, ciao.